Bonjour à toutes, mesdames. Bonjour, bonjour. Alors, désolé pour le quiproquo. Je croyais que c'était. C'est ma faute. Je croyais que c'était à 10h, 10h15, 10h30, comme d'habitude. Et je ne me rappelais plus que la semaine dernière, on avait fait 10h. Donc, excusez-moi. Mais ça y est, on commence. On commence notre chiou. Le temps passé. Mais ça y est, on est parti. Et on va pouvoir commencer. Donc, ce matin, vous avez demandé un chiou. Spécial Pessah. C'est parti. On va s'occuper pas de Tfila ce matin, on va s'occuper uniquement de Pessah, de Leil HaSeder, de Chag HaPessah de manière générale. OK ? Alors c'est parti. Les amis, quand on parle de Pessah, eh bien il faut se poser une grande question. Qu'est-ce qu'on fête ? Qu'est-ce qu'on fête ? Quelle est la véritable raison de la fête de Pessah ? Eh oui, c'est une vraie question, cette histoire. Parce que bon, c'est la fête la plus importante, enfin, je sais pas si c'est la plus importante, mais c'est une fête qui est extrêmement, extrêmement importante. La question est de savoir, est-ce qu'on sait concrètement ce qu'on fête? Vous allez me dire, la sortie d'Égypte. Je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il faut bien comprendre une chose. Il y a des gens, j'ai entendu dans une vidéo que mes enfants regardaient ce matin sur Pessah pour les enfants, que le rabbin là-bas qui a fait la vidéo, il a demandé « Alors, qu'est-ce qu'on fait à Pessah ?» Et ils ont répondu là-bas dans la vidéo « C'est la naissance du peuple juif, le Yom Houledet du Ham Israël. » Et je suis désolé, mais c'est faux. C'est faux car nous étions un peuple juif avant la sortie d'Égypte. Je vous rappelle qu'au début du livre de Shemot, c'est-à-dire avant la sortie d'Égypte, quand on est en Égypte, Pharaon nous appelle d'ores et déjà Yesh Am Bene Israël Rav Ve'atzum Mimenu. Il dit cela à son peuple, il nous appelle comme étant une identité nationale. Nous sommes donc déjà un peuple en Égypte. Avant de sortir d'Égypte, nous sommes déjà un peuple. Donc, on ne peut pas dire que Pessah, c'est la naissance du peuple juif. Non, le peuple juif existait déjà avant, en tant que peuple. Mais c'était un peuple en exil. Nous fêtons la sortie de ce peuple d'exil. Mais la question, et je le repose, c'est qu'est-ce que ça représente pour nous, cette fête? Alors, juste deux petites secondes. Ma sœur est peut-être dans le parage. Allô? Oui, je suis en live sur YouTube. Que puis-je faire pour vous, madame? Ah, d'accord. Bon, je te rappelle après. Bekitsour, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fête exactement? Quelle est l'idée? Eh bien, les amis, je vous explique. La Gemara, dans le traité de Psachim, nous dit que pour véritablement faire la mitzvah de la Haggadah, eh bien, il y a un klal, il y a un truc à respecter. Tsarich la tril bignut ou le sayem beshevach. Lorsqu'on raconte la Haggadah, eh bien, nous devons la tril bignut, c'est-à-dire commencer par dire ce qui ne va pas, ce qui n'était pas bien, pour terminer sur ce qui était génial. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui est le gnout et qu'est-ce qui est le shevach? Qu'est-ce qui n'était pas bien et qu'est-ce qui est bien? Eh bien, la réponse est toute simple. Mahloket. Bah oui, ça c'est une bonne réponse de juif. Mahloket. Eh oui, la Gemara ne nous a pas dit quel est le bien et quel est le pas bien. Alors, que faire? Eh bien, je vais vous dire qu'on fait. Il y a une marloquette entre Rav et Shmuel dans le Talmud, entre Abaye et Rabba, c'est-à-dire entre différentes écoles de réflexion talmudique de qu'est-ce qui est bien et pas bien à la sortie d'Égypte. Alors, la première avis nous dit que ce qui était gnout, c'est que Avadim Ayinu le Paro Bemitzray. C'est que nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Ça, c'était le gnout. C'est-à-dire, le fait d'être esclave, c'est pas bien. Donc, c'est quoi le shevach? Eh bien, à ce moment-là, le shevach, c'est Barchar Yatsano Misham. Que maintenant, on est en version. C'est de dire que Mitechila Ovde Avodazara Yovotenu. C'est que le problème, c'est qu'on était idolâtre. C'est ça le vrai problème. Et que Arshav, Kirvano, Amakom, la Avodato. C'est que maintenant, nous sommes redevenus serviteurs de Dieu. deux avis. Deux avis, d'ailleurs, qui ont donné naissance à deux Haggadot. Deux Haggadot différentes. Une Haggada de Rav, une Haggada de Shmuel, une Haggada de Abaye, une Haggada de Rabba. C'est-à-dire deux Haggadot complètement différentes, qui avaient toujours, d'ailleurs, le même format. Introduction, question, réponse. Dans la première Haggada, l'introduction, c'est Alachmania. Les questions, c'est le Manishtana. Et la réponse, c'est quand on dit Avadim Aïnou le Paro, jusqu'au moment où on parle de Rabbi Elazar ben Azaria, Reani Keven, Shivim Shana, tout ça. Ça, c'est la première Haggada. La deuxième Haggada, c'est avec l'introduction de Baruch Hamakom, Baruchu, Baruch Shatan Torah, Lamo Israël, Baruchu. Ensuite, des questions, ce sont les quatre enfants. Et ensuite, le récit, Mitechila, Ovde Avoda Azara, Ayu Avote. En d'autres termes, deux Haggadot qui, quelque part, nous font prendre conscience qu'il y a deux façons de voir Pessah. Est-ce que Pessah est la libération nationale du peuple juif, telle que le veut la première Haggadah, ou alors Pessah est le retour à Dieu, une espèce de libération spirituelle, comme le veut la deuxième Haggadah. Alors, quelle est la réponse? Eh bien, la réponse est très simple, les amis. Zé oto davar. Je m'explique. D'après la tradition d'Israël, au 9e siècle à peu près, à l'époque des Savoraïm, peut-être 8e siècle même, à l'époque des Savoraïm, c'est-à-dire après le Talmud, eh bien, on a décidé de rassembler les deux Haggadot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tape une Haggada énorme. Parce qu'en fait, on a collé deux Haggadot. À l'époque, on ne faisait pas aussi long. Il y en a qui faisaient comme ça, il y en a qui faisaient comme ça. Mais en fait, vous allez voir, c'est tout un très intelligent d'avoir collé les deux Haggadot. Seulement, on les a collés en mettant d'abord Avadim Ayinu et ensuite Mitechila Ovde Avodazara. Pourquoi ? À Pessah, Pharaon nous a libérés. Pharaon nous a libérés. C'est ça qu'on fait. Vayi Bachatsi Alayla, Pharaon, pendant la plaie de Makad de Bechorot, n'en peut plus. Ça y est, il a accepté la libération du peuple juif. Et donc, il vient nous libérer. Certes, on sortira d'Égypte le lendemain matin, concrètement avec le sac à dos et la charrette, ce que tu veux, mais déjà le soir, Pharaon nous a libérés, nous n'étions plus des esclaves. Et là, il faut comprendre une chose. Nous ne sommes plus des esclaves. C'est le point de départ de la sortie d'Égypte. Qu'en est-il de notre religiosité, de notre attachement à Dieu ? Ben, il n'est pas machou. Alors évidemment, Vayaminu Ba'Hashem ou Moshe Avdo. Quand on voit l'ouverture de la mer Rouge, évidemment que Vayaminu Ba'Hashem ou Moshe Avdo. Seulement le Rambam nous explique dans les lois sur les bases de la Torah, Elchot Yesodeh Torah, que cette Emouna était une Emouna temporaire. Ah ouais, 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 là le dieu de Moshe, là il est bon, il est bien, il arrive bien à faire la guerre aux Égyptiens. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'on avait rejeté toutes les divinités égyptiennes. Lorsque nous lisons le livre de Yéhézkel au chapitre 20, eh bien on se rend compte que les Béné Israël qui sortent d'Égypte sont tous Ovde Avoda Zara la Mehadrin. Glat Kosher Avoda Zara. Que ce soit dans des actions, on va au temple de Amon, au temple de Ra, est-ce que tu veux, ou dans l'influence culturelle, l'influence profonde qu'a mis en place l'Égypte sur nous. 210 ans, on était en Égypte. 210 ans, on a vécu dans cette ambiance idolâtre égyptienne. Évidemment que ça a pénétré à l'intérieur de nous. C'est une évidence. J'ai pas besoin de vous expliquer que lorsque tu vis 2000 ans ou 1500 ans chez des gens, même si tu essayes de garder une spécificité, il y a un moment donné où l'influence des gens, bah elle est là. Elle est là, elle est sur toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Je vous ai parlé quelque chose d'évident et vous l'avez bien compris. 2000 ans où les Ashkenazim ont vécu chez les chrétiens. Mais il y a eu une influence chrétienne évidente à tous les niveaux, que ce soit au niveau architectural, une synagogue consistoriale en France, c'est une église, que ce soit au niveau de nos croyances, Bien évidemment. Regardez à quoi se comment se représentent les Juifs ashkénazes. Le Mashiach, le Messie, bah, c'est Jésus avec une kippa. C'est Harry Potter avec des péotes. Alors que ça n'a rien à voir avec la conception réelle du Mashiach. Donc il y a une influence chrétienne évidente. La notion que les Ashkenazim sont en mode déprime constante. Comme dirait ma grand-mère, quand je lui dis le Shabbat, vendredi, quand je l'appelle, je dis alors mamie, elle me dit alors comment ça va? Je lui dis tout va bien. Elle me dit ne t'inquiète pas, ça va passer. Cette façon qu'ont les Ashkenazim de dire cette expression bien connue dans nos contrées, si tu peux être triste, pourquoi être joyeux? Eh bien, ça, c'est un héritage évident du christianisme. D'un autre côté, les Sfaradim ne sont pas en reste. 1500 ans chez les musulmans. Tu ne crois pas qu'il n'y a pas eu de l'influence? Évidemment, la liturgie séfarade, elle ressemble à la liturgie arabe. Évidemment que beaucoup de croyances, comme celle du libre-arbitre, lorsque nos grands-mères marocaines, tunisiennes, algériennes nous disent « c'est ton maktoub », ce n'est absolument pas juif, la notion de maktoub. La phrase, à l'origine, c'est maktoub min Allah. C'est musulman. Mais 1500 ans chez les musulmans ont laissé des traces. Alors, 210 ans également ont laissé des traces sur nous en Égypte. On nous dit, et vous le savez, qu'en Égypte, on a gardé notre... Enfin, ceux qui sont sortis d'Égypte, hein, ont gardé leur langage, ont gardé leurs vêtements et ont gardé leur nom. Ça veut dire que tout le reste, ils n'ont pas gardé. Tu peux continuer à t'appeler Rosenberg ou, je sais pas moi, Ben Soussan. Tu peux continuer à t'habiller avec des habits traditionnels juifs. Et tu peux continuer à parler en yiddish, mais être culturellement complètement assimilé. Complètement assimilé. J'en veux pour preuve. L'assimilation culturelle, elle n'est pas forcément pas religieuse. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. À New York, par exemple. Dans les communautés orthodoxes, ok, une communauté, pas des chassidim, mais chez les orthodoxes, des gens religieux, shomrei Torah, mitzvot, ce que tu veux, mais ils sont américains jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles. Regardez actuellement le grand rabbin de France. Il est rabbin, il a une kippa, il fait Shabbat, c'est un religieux. Mais c'est un Fransaoui, un Français jusqu'au bout des ongles, plus français que tous les Français. Maintenant, ce n'est pas un reproche. C'est pas mal d'être français, c'est très bien d'être français, très bien d'être américain quand tu es américain, quand tu es français. Alors certes, Napoléon nous a donné la citoyenneté française il y a 200 ans. C'est très sympa à lui. Ça nous a permis d'arrêter les pogroms. Ça nous a permis d'avoir une meilleure condition. Tout ça, c'est très, très sympathique. Mais il est évident que ça a annihilé une grande partie de notre véritable identité. Les 4/5 qui sont restés en Égypte, j'en parle même pas. Eux, ils n'avaient même plus leur nom, même plus leur langue, même plus leurs vêtements. Et là, je me permets de tirer la sonnette d'alarme, une vraie sonnette d'alarme. Qui dit la chose suivante. Lorsque je me retrouve à faire un chiour en français, nous devons nous poser la question. Où est notre compréhension de notre langue? Combien connaissons-nous de gens? Alors, on parle de la France parce que c'est ce qu'on connaît. Mais combien connaissons-nous de gens dans la sphère médiatique en France qui sont juifs, mais qui ont changé leur nom, changé leur langue et changé leurs vêtements? Qui s'habillent comme des goïms, qui parlent comme des goïms, et qui ont décidé que ça faisait plus vendre de s'appeler Bruel que Ben Guigui. C'est terrible. C'est terrible. L'assimilation culturelle de l'Égypte était extrêmement profonde, et même pour ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont pu sortir d'Égypte parce qu'ils avaient gardé quand même quelque chose. Eh bien, même eux, ils étaient complètement imprégnés de cette culture égyptienne, de cette idolâtrie. Vous comprenez qu'ils n'ont pas extrêmement rechigné à faire le veau d'or après. Je veux dire, la culture idolâtre, elle est là. Elle est là, que tu le veuilles ou pas. En d'autres termes, nous fêtons à Pessah la sortie de 600 000 idolâtres d'Égypte. Eh oui, ne venez pas me dire qu'à Pessah, on est redevenu serviteur de la Torah de Dieu. On n'a même pas reçu la Torah. La Torah, ce sera à Shavuot. À Pessah, Yatsanu Mimitzrayim. Pharaon nous a libérés. Nous n'étions plus les esclaves de Pharaon. Donc, je comprends tout à fait la Haggadah qui dit « Avadim ha'inu leparo b'mitzrayim v'hashem utziyanu misham » et maintenant, on n'est plus esclaves de Pharaon. Cette Haggadah-là est tout à fait compréhensible. La deuxième, par contre, serait plus propice à être lue à Shavuot. Nous étions idolâtres v'archav kirvano amakom la'avodato. Ça, c'est vrai à Shavuot. A priori. Eh bien, non. Effectivement, à Shavuot, nous avons reçu les lois de la Torah, le dévoilement divin. C'est Reta Dibrot. Mais il s'est passé quelque chose d'autre à Pessah. Et c'est fondamental de le comprendre. Vous savez, à Pessah, on va dire une prière particulière qu'on dit à certains moments de l'année, qui s'appelle le Hallel. Le Hallel, on le dit lorsqu'il y a un dévoilement direct d'Akadosh Baruch Hu, mais pas que. Nous dit la Psikta Rabati de Hanouka que En Omrim Oto Ella Al Mapalatam Shel Malchut. C'est-à-dire que le Hallel ne se dit pas pour un miracle X ou Y, mais il se dit pour la Geoula. C'est-à-dire que tu ne diras le Hallel que lorsqu'il y a la chute de la Malchut qui te dominait et que tu es maintenant indépendant. La Psikta rajoute Le She'avar Ainu Avadim Le Paro Avadim Le Yavan. Et maintenant, non. C'est un texte qui parle de Hanouka. Donc, il dit, on était esclave de Pharaon, on en est sorti, on dit le Hallel. On était esclave de Antiochus, on en est sorti avec les Rachmonaïm, on dit le Hallel. En d'autres termes, mesdames, eh bien, qu'est-ce que nous disons? Que lorsque nous sortons d'Égypte, nous disons le Hallel. Seulement, si on se pose la vraie question est de savoir, mais qui, dans l'histoire, est le premier à avoir dit le Hallel? Nous, nous avons dit la Shira. Shira Tayam, c'est l'ancêtre de notre Hallel à nous, Béné Israël. Mais qui est le premier individu à avoir dit le Hallel? Eh bien, je vous le donne en mille. Le Midrash Tanhuma nous dit tout simplement que le premier à avoir dit le Hallel, c'est Pharaon. Lorsque Makat Bechorot arrive, qu'il accepte de libérer les Béné Israël, il vient voir Moshe et Aaron. Et il leur dit, ça y est, partez. Dans la Torah, il y a marqué, Tzu, kasher dibartem valechu, uberartem gam oti. Partez comme vous l'avez dit et bénissez-moi. Ça, c'est le texte de la Torah. Le Midrash rajoute une phrase que Pharaon a dit. Et cette phrase est fondamentale. Le Midrash nous dit que Pharaon a dit, leshe avar aitem avadim li. À l'époque, donc il y a 5 minutes, vous étiez mes esclaves. Ve'archav, areatem birshut atzmechem. Et donc, et maintenant, vous êtes vos propres patrons. Vous êtes indépendants. Ve'lachen avadav shel akadosh baruch hu atem. Et donc, vous êtes les serviteurs d'akadosh baruch hu. Ve'allechem lehallelo. Et c'est à vous de l'Hallel auto, de lui faire le Hallel. Alléluia, Allelu Avde Hashem. C'est lui qui a dit cette première phrase, qui est la première phrase de notre Hallel. Alléluia, Allelu Avde Hashem. Parce que Pharaon nous dit, vous êtes maintenant indépendant, tu sais ce que ça veut dire être indépendant? Ça veut dire être serviteur de Dieu. Être indépendant veut dire être serviteur de Dieu. Mais attends, je suis encore complètement imprégné. Naron, t'es imprégné, t'es pas religieux, tu connais pas. Être indépendant, c'est la possibilité pour le peuple juif d'accepter d'avoir un patron, d'avoir Dieu comme patron. Donc à la question, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Est-ce qu'on fait la sortie nationale d'Égypte ou le retour à Dieu? Rabotai, c'est autodavar. Sortir nationalement, devenir indépendant, veut dire de facto être serviteur de Dieu. Et par contre, l'inverse est vrai aussi. ça veut dire que être soumis à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est de facto être idolâtre. Et ça, c'est terriblement fou. Il faut comprendre ça très profondément. Il ne peut donc pas y avoir de Torah sans indépendance nationale. Quand le peuple juif est en exil, il ne peut pas y avoir de Torah. Vous comprenez que ma phrase me choque. Moi, c'est moi qui l'ai dit, mais c'est moi qui l'ai choqué. Et quoi ? Et on fait quoi avec le Talmud ? Et on fait quoi avec tous les Rishonim ? Et on fait quoi avec tous les enseignements de la Torah et la Chassidoute que tu as ? On n'a pas de Torah ! On a une Torah de... Excusez-moi l'expression, vous allez comprendre dans deux secondes pourquoi je dis ça. C'est volontairement violent, mais vous allez comprendre. Nous avons une Torah de boîte de conserve. Une Torah extrêmement développée, mais qui vient nous conserver tant qu'on est en exil. Le Talmud, extraordinaire le Talmud, mais le Talmud n'est que l'explication de la Mishnah. La Halakha, toutes les écritures de Halakha, du Rambam jusqu'au Shulchan Aruch, et les Kitsuré Shulchan Aruch, et tout ce que tu veux du Rav Gansfried du 19e siècle, tout ça, Shnabrura, machin, c'est la compilation de la Halakha qui est sortie du Talmud, qui lui-même était l'explication de la Mishnah. Qui elle-même était la mise sur papier de la Torah orale, puisque l'exil. En d'autres termes, toute la Torah que nous avons en exil est une Torah pour sauver les meubles. Une Torah qui vient nous, si vous voulez, nous mettre dans le miklat. Histoire qu'on ne perde pas notre identité durant 2000 ans. Mais ce n'est pas la Torah qui nous relie directement à Kadosh Baruch Hu. Ça nous relie à Dieu. Par les actions, pas de problème. Mais vous comprenez qu'on est loin de la Torah d'Eretz Israël, la Torah de l'indépendance juive, la Torah chez Birtav, la Torah chez Béalpé et la Torah chez le Torah Takabala. Eh bien, toutes les trois étaient écrites dans leur essence en Eretz Israël. Torah chez Birtav, le Tanakh, évidemment. Torah chez Béalpé, la Mishnah, évidemment. Et le Zohar, évidemment. En d'autres termes, nous dit le Talmud lui-même, Talmud Bavli, Me'az shegalu Israël me'admatam, ein lecha bitul Torah gadol mize. Ce sont des rabbins qui habitent en Babylonie qui le disent. Ils parlent d'eux-mêmes. La Torah, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la Torah en Hutzlaretz. On fait, bien sûr. Mais lorsque le peuple juif est soumis, sa Torah est soumise également. D'abord, il ne s'occupe pas de tous les domaines de la vie. Elle ne s'occupe que des domaines de la religion. Le reste des domaines de la vie sont gérés par l'égoïme. Donc la Torah n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus. Et deuxièmement, même quand elle a son mot à dire sur plein de choses, eh bien, elle est influencée parce que les hommes qui la commentent, les rabbanim, sont influencés par leur identité d'exil. C'est une réalité. Terrible, mais une réalité quand même. La sortie d'Égypte, c'est la possibilité d'avoir une véritable Torah. Tout simplement. La sortie de la Grèce nous a donné la permission d'avoir les Zougot, les Tanaïm, la Mishnah. La sortie de notre exil nous a permis d'avoir la renaissance extraordinaire de la Torah d'Eretz Israël, le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda et tous les rabbinim que vous connaissez aujourd'hui. Donc ça veut dire que lorsqu'on sort d'Égypte, qu'on sort d'exil, on devient serviteur de Dieu, on peut recevoir la Torah. Mais on ne peut pas, chas v'shalom, faire la fête de Shavuot avant la fête de Pessah. Impossible. Impossible de s'attacher à une Torah qui ne serait pas liée d'abord à une existence nationale. Une fois qu'on comprend cela, alors on peut comprendre ces trois mots qu'on doit dire pour faire le seder, sinon, eh bien, lo yatsanu l'idechova. Nous sommes à la fin de la partie Maguide de la Haggadah, vous le connaissez. On nous dit Rabban Gamliel Aya Omer. Kol shelo amar shlosha dvarim elu ba pesach lo yatsa yede chovato. Mais shelo amar, c'est pas, il suffit pas de dire les trois mots, mais de comprendre ce que ça veut dire. Pesach, matzah ou maror. Qu'est-ce que ces trois dimensions viennent faire que sans elles, tu n'as pas fait ton pesach? Qu'est-ce que c'est que pesach, matzah ou maror à Botay? Pesach, facile, c'est quoi? Korban à Pesach. Ken Pesach shayu avotenu ochlim bizman shebet hamikdash haya kayam al shum mal shum shepasach. Hakadosh baruch hu al batei avotenu b'mitzrayim shenemar v'amartem zevach Pesach hu l'Hashem. Asher pasach al batei b'nei Yisrael b'mitzrayim b'nokpo et mitzrayim v'et batenu hitzil v'yikod ha'am v'yishtachavu. Le korban Pesach, mais qu'est-ce qu'il représente? Et je vais vous dire ce qu'il représente. Je vais vous dire ce qu'il représente. Vous savez ce que ça veut dire pour des Bnei Israël qui habitent en Égypte de pendant 4 jours mettre le dieu principal de l'Égypte au pied de leur lit et de rien dire à tout le monde qu'on va l'égorger et qu'on va le manger? Vous savez quelle audace et quelle confiance faut-il pour faire ça? Imaginez aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait, j'allais dire le buste de Marianne, mais bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment une référence française. Mais prenez n'importe quelle très grande référence française et de l'accrocher au pied de ton lit pendant 4 jours, au fût et au sud de toutes les Français, en disant, voilà, dans 4 jours, je le détruis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis plus d'accord de faire partie de ton identité, de ton histoire. Je me détache complètement de votre histoire. C'est-à-dire que le Korban Pessah, c'est la prise de conscience que Anilo Mitzri. Anilo Mitzri, Nekuda. Je suis juif. J'ai beaucoup de respect pour vous. Merci beaucoup pour toutes ces années de mon voisinage. Aval Anilo Mitzri. Et j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de dire, je ne suis pas égyptien. J'ai une identité. Je revendique cette identité. Le fait de faire le Korban Pessah, on nous dit Al-Shumma, Al-Shum, à cause de quoi on fait ça? Parce que Dieu a Pessah. Pessah au-dessus des. Il est passé au-dessus des maisons où il y avait le Korban Pessah, où il y avait ce sang sur le Mashkof. Femeod. Quoi, la cavode? Alors moi j'ai une question. Ça, c'était pour l'Égypte. Aujourd'hui, il n'y a plus de sang sur le Mashkof, sur les portes. Alors, Al-Shumma, on va remanger le Korban Pessah Bezrat Hashem. Eh bien, on va le remanger Al-Shum Sha-Pessah, que la bouche peut se réouvrir. Et on peut recommencer à dire ce qu'on a à dire pour de vrai. Et Am Israël peut recommencer à avoir un véritable message. À Pessah. La bouche s'ouvre. C'est Pessah. Ensuite, on arrive à Matzah. Et là, mesdames, alors là, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Il va falloir qu'on s'arrête 2 secondes sur cette histoire de Matzah. Parce que on nous l'a vendu et on nous le vend tout le temps. J'en ai marre des mensonges. Al-Shumma, Al-Shum, Shedlo, Ispik, Betsekam, Shelavotenu, L'Achmit. Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah et pas une bonne baguette bien croustillante? Parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de faire le pain. Ça n'a pas eu le temps de lever. Tu l'as vu, mon œil? C'est un mensonge. Un mensonge éhonté. Bah oui, évidemment que c'est un mensonge. C'est absurde. C'est contraire à tout ce qui est marqué dans la Torah de dire qu'on n'a pas eu le temps. Ça, combien de temps il faut pour faire du pain? Combien? Allez, moi je ne suis pas, je suis pas un grand faiseur de challot, j'avoue, ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est ma femme. Donc, mais vous êtes des femmes et vous faites des challot extraordinaires. Donc, je vous pose la question. Allez, de A à Z, combien il faut pour faire une challah? Vous avez le droit de répondre. Hein. Vous savez que je peux voir si vous pouvez écrire. Comme ça, je peux voir vos réponses. Donc, aidez-moi, combien de temps faut-il de A à Z pour faire une challah? Non, pas de réponse? Bon, vous me dites si je me trompe ou pas. Je pense que c'est, je sais pas, 2 heures, 3 heures. Le temps qu'on ait fait la pâte, qu'on la laisse un peu monter, ensuite qu'on la mette au four, mette du jaune d'œuf, 3 heures. Nous, il y a là, 3 heures. 3 heures! Mais Rabotaï, ça fait 4 jours! 4 jours qu'on sait qu'on part! Qu'on a accroché le Corban Pessah et que Moshe nous a dit que le 15, on fait ça. Vous allez me dire, non, peut-être qu'il aura pas dit qu'on sortait d'Égypte. Ok, ça va. Le soir de l'El Haseder, lorsqu'il a dit de manger le Corban Pessah, et il a dit qu'il faut manger habillé, machin, parce que demain matin, on part. Et ça, il l'a dit. Donc, on a 12 heures. 12 heures pour faire le pain. Enfin, ça suffit pas. Bien sûr que ça suffit. On a le temps de faire du pain. On a le temps de faire des bagels. On a le temps de faire des donuts. On a le temps de faire tout ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Lois Pik Betsekam Shelavotenu? C'est complètement faux. Et pourtant, c'est ce qui a marqué dans la Haggadah. Et Matzazon, Shorim Al-Shumma, Al-Shum, Shelo Ispik, Betsekam Shelavotenu, Lahmitz, Achenigla Alem, Melech Malcham Lachim, Akadosh Baruchu, Ugalam, Shenemar, Verfu et Abatsek, Achalotsum Mitzraim, Ugot Matzot, Kilo Hametz, Kigurshum Mitzraim, Velahmut Mahamea, Vegam Tzedalo, Asulaim. On donne les versets qui nous disent effectivement qu'on n'a pas eu le temps. Mais la question, c'est qui n'a pas eu le temps? Rotaï, ça, c'est un chidouche extraordinaire. Parce qu'à partir du moment, où tu as fait Pessah, c'est-à-dire que tu as rouvert ta bouche, que tu es indépendant, que tu as montré que tu as une identité et que tu as donc un message à donner à l'humanité, eh bien, il y a une partie de cette humanité qui peut se reconnaître dans ce message et qui peut vouloir s'attacher désormais à l'identité d'Israël. À l'époque, il s'appelait le Erev Rav. Le Erev Rav, il voulait suivre Moshe et les Béné Israël. Mais eux, ils n'ont pas reçu toutes les informations que Moshe a données aux Béné Israël depuis 4 jours. Ils ont juste fait un groupe WhatsApp avec Moshe en disant « Dès qu'on sort, je vous préviens. » Et au moment où Moshe a dit « Yalla Olchim », il envoyait un message WhatsApp à ces fameux Erev Rav. C'était quelle heure? Au lever du soleil. Il faisait quoi, 5 heures du mat? C'est-à-dire le moment où dans l'époque antique et jusqu'à aujourd'hui, notre boulanger, il fait le pain. Et au moment où ils étaient en train de pétrir la pâte, ils voulaient la laisser reposer et faire du pain comme d'habitude. Mais Moshe a dit, on sort. Ah, Lois Pik Betsekam. Et ils ont pris ça avec eux. Et la Torah nous dit clairement que le Erev Rav, ils ont fait Ugot Matzot Kilo Chametz. Puisque la Torah nous parle de Ham. Aham. Et le Kliakar nous dit que Aham, c'est Erev Rav. Donc tout simplement, le Erev Rav, c'est d'eux dont on parle qui n'ont pas eu le temps de faire des matzot. Ce n'est pas nos ancêtres. Après, on dit que c'est nos ancêtres. Et parce qu'à partir du moment où ils se sont attachés à nous, ils ont décidé eux aussi de renier l'Égypte et ils ont décidé d'embrasser la destinée collective du peuple juif. Ils deviennent avotenu. Rabbi Akiva, c'est Avotenu. Et pourtant, Rabbi Akiva, il est Ben Guérim. Il est fils de converti. Pourquoi? Simplement parce que, à partir du moment où tu t'attaches à l'identité d'Israël, eh bien, tu fais partie intégrante de cette identité. Lorsque tu as fait Pessah, tu as rouvert ta bouche, tu as un message à donner à l'humanité, eh bien, cette humanité, elle dit, je viens. Et c'est le but de la sortie d'Égypte, Rabotaï. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pas de sortir que les Bnei Israël, c'est de sortir l'Égypte de son emprisonnement dans son idolâtrie, dans sa conception du monde. Donc matzah, nous mangeons de la matzah qui n'a pas levé, comme celle du Erev Rav qui n'a pas levé, pour dire que nous pouvons avoir un message à l'humanité. À ce moment-là, on est capable enfin de dire Maror. Maror, Shehorim al Shumma. על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים שנאמר והם מררו את חייהם בעבודה קשה וחומר ולבנים וכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. Évidemment, évidemment, le maror c'est le plus facile, vous allez me dire. C'est celui qui nous rappelle l'amertume de la servitude. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il faut se rappeler d'où tu viens. Bevadai. Le Rav Kook nous dit quelque chose de fantastique à propos du maror. Il dit le maror Zecher la Geoula. Pas seulement des travaux pénibles que les Égyptiens nous donnaient, mais c'est Mamash Zecher la Geoula. Pourquoi ? Le Maror la Geoula, donne-moi du Haroset, donne-moi un truc bon. Ma Maror. Dit le Rav Kook. Badaï Maror. Parce que le Maror, c'est mar, c'est de l'amertume. Dit le Rav Kook, il y a une certaine aisance et plaisance de l'exil, qui est que tu ne dois pas te remettre en question, que tu ne dois pas te prendre la tête. De toute façon, ce n'est pas toi qui décides. Toi, tu ne fais que ce que le patron il dit, et si ce n'est pas bien, ben, ce n'est pas de ta faute. La Géoula implique qu'à partir de maintenant, tu es libre. Donc, tu es responsable de tes actes. Dis le Rav Kook, yesh merirut ba Géoula, parce que ça oblige les gens maintenant à être responsables de ce qu'ils font et à changer, à évoluer, à avancer. Il leur a fou que personne n'aime être mis devant ses responsabilités. Il préfère vivre en mode « Ah, oh, c'est de ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. » Aval la Géoula nous oblige à grandir. Nous oblige à grandir, à devenir des adultes. Qu'est-ce que ça veut dire devenir des adultes, Rabotai ? Qu'est-ce que ça veut dire grandir ? Eh bien, comme vous le savez, la préparation au Léla Seder, par là que je terminerai. La préparation à cette soirée du Seder nous dit la suite de la Haggadah, Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot Et Atzmo, Kilou Yatsa Mitzrayim. Il faut maintenant se rendre. Kilou, moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, à l'époque de l'Égypte, comme on l'a dit tout à l'heure, le processus de la sortie d'Égypte a commencé à Shabbat Agadol. A commencé 4 jours avant, lorsqu'on a mis C'est le Bet Avot, C'est la Bait. C'était Shabbat. C'était Shabbat Hagadol, préparation à la sortie d'Égypte. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là pour se préparer? C'est quoi la première étape de la préparation? C'est qu'on a pris ce mouton et qu'on l'a mis au pied du lit. C'est la première fois, que Hakadosh Baruch Hu donne une mitzvah au peuple juif. Il y a eu des mitzvot individuelles, Avraham, Yitzhak, Yaakov, mais c'est la première fois que Dieu donne une mitzvah collective au peuple d'Israël. Nouvé. C'est ainsi donc la première fois que nous devenons, en tant que peuple, bar mitzvah. C'est la première fois où on devient fils de la mitzvah, puisqu'on devient des gens à qui Dieu a donné une mitzvah. En d'autres termes, avant d'être bar mitzvah, on est ma, on est katan. Katan, ou l'homme qui a une mitzvot. Shabbat Agadol. On devient Gdolim. C'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat, Shabbat Agadol. Une des raisons. Parce qu'on est devenu des Gdolim. Gdolim qui sont capables de faire la mitzvah. Ainsi donc, Am Israël, prend conscience que la sortie d'Égypte, cette sortie nationale, le fait qu'on retrouve notre identité, eh bien, nous permet de nous attacher à Dieu et nous permet donc d'avoir un message à toute l'humanité. Ainsi, ma guide se termine par cette bracha dans laquelle nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Ga'alanu. Ça, c'est vrai pour les gens qui ont écrit la Haggadah, c'est-à-dire à l'époque de Hanouka, de ceux qui ont été libérés du Beit Sheni. Ve'ga'al et Avotenu, en Égypte. Ça, on parle déjà de ceux qui sont après le Khurban, qui nous ont amenés à manger cette nuit-là, Matzah Umaror, pas Korban Pessah, puisqu'on est après l'exil. Tout le but de cette soirée de Pessah est d'arriver à un jour où on pourra revenir faire des régalim, Beirecha. C'est-à-dire au Beit HaMikdash. Et là, on pourra faire le Korban Pesach. Et à ce moment-là, on pourra dire enfin un nouveau Hallel. Shir Chadash. Nouveau Hallel. On a dit le Hallel à Pesach. On a dit le Hallel à Chanukah. Et la Haggadah nous dit, Bezrat Hashem, un jour, tu diras le Hallel à Yom HaAtzmaut. Et à ce moment-là, tu pourras dire Baruch Ata Hashem, toi Dieu, tu es véritablement le libérateur d'Israël. Baruch ata Hashem, Gaal Israël, Sheniske, le Geoula, Shelema, Hashana, sortie de confinement, Amen, ve Amen, Chag Sameach à tout le monde.